Radio Okapi. En Ituri, plus de 1800 personnes ont déjà regagné leur village dans les territoires de Djougou. L'information a été rendue publique lundi par Ocha. Ce retour intervient après une légère amélioration de la situation sécuritaire dans ces zones. Dans le territoire de Nirangong au Nord Kivu, les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont gravement endommagé les champs agricoles. Les détails dans un instant. Une délégation du HCR s'est rendue ce lundi à Kananga. Cette mission avait pour objectif de remettre des titres fonciers à des réfugiés congolais retournés d'Angola, ainsi que des maisons déjà construites pour certains ménages vivant sur les sites d'un coco. Pour en parler, Radio Okapi reçoit Abdourahouf Nkonde, directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui a conduit cette délégation. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous savoir nombreux devant vos postes radio pour suivre notre journal. Ce journal part de l'Ituri où plus de 1800 personnes ont déjà regagné leur village des Limani, Igabarrière, Nizi et Mangala dans les territoires de Djougou. L'information a été rendue publique lundi par la Coordination des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, OCHA. Ce retour intervient après une légère amélioration de la situation sécuritaire dans ces zones. Ces familles avaient fui il y a plus de 3 mois les affrontements entre l'armée congolaise et des groupes armés actifs dans la région. Martial Kiza Biamongu pour le détail.
Une accalmie relative s'installe dans plusieurs entités du territoire de Djougou. La réouverture progressive des écoles et des marchés redonne de l'espoir aux habitants. Des milliers de personnes qui avaient fui les violences il y a plus de 3 mois vers Bounia et d'autres zones jugées plus sûres ont décidé de rentrer chez elles. Selon les derniers rapports de la coordination humanitaire des Nations Unies, au Tchad, environ 1800 personnes ont regagné leur village. Un retour motivé également par le début de la saison agricole, alors que de nombreuses familles souhaitent remettre leurs champs en valeur. Mais Ocha alerte, dans ces zones de retour, l'insécurité alimentaire aiguë reste très préoccupante. Une situation qui pourrait fragiliser davantage ces familles déjà éprouvées. Pour éviter de nouveaux déplacements, Ocha recommande des mesures d'accompagnement urgentes, notamment un soutien alimentaire et une protection renforcé pour les communautés qui se réinstallent. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. La suspension de l'opération Armes contre Argent, lancée par le gouverneur du Nord Kivu à Beni, suscite des réactions. Dans un télégramme daté du 14 novembre, attribué au ministère de l'Intérieur et largement relayé sur les réseaux sociaux, le VPM et ministre de l'Intérieur a ordonné l'arrêt de cette initiative, estimant qu'elle pourrait aggraver la situation sécuritaire et ternir l'image du pays auprès des Nations Unies. L'ONG Jeune Ambassadeur pour la Paix et le Développement, JAPED RDC, qui lutte contre les restes explosifs des guerres, salue cette décision. Selon son coordonnateur national, Disciple Makassi, cette opération exposait les civils et nécessitait une approche plus communautaire pour lutter contre les explosifs. Écoutez Disciple Makassi, joint par Radio Okapi.
Nous remercions le vice-premier ministre à charge de l'intérieur d'avoir pris la décision courageuse de stopper l'initiative du gouverneur militaire du Nord Kivu, celle d'échanger l'argent contre les armes dans cette zone opérationnelle du Nord Kivu. L'organisation humanitaire JAPED-RDC avait présenté les inquiétudes inconséquences d'échange d'armes contre argent. Par contre, l'organisation humanitaire JAPED-RDC propose une forte mobilisation communautaire de lutte contre les restes d'explosifs de guerre dans la province du Nord Kivu, avec l'appui du gouvernement et ses partenaires.
Dans le territoire de Nirangong au Nord Kivu, les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont gravement endommagé les champs agricoles. Des dizaines d'hectares de cultures de maïs, haricots, pommes de terre, choux et autres sont détruits, laissant de nombreuses familles paysannes sans moyen de subsistance. Denis Lukesomapanda nous en parle.
Selon les agriculteurs, l'érosion accélérée par les sols volcaniques a emporté une partie des terres cultivées, tandis que les eaux stagnantes font pourrir les plantes encore debout. Ils craignent désormais une hausse des prix sur les marchés et une insécurité alimentaire imminente. Pour ces agriculteurs de Moudja, les pertes agricoles sont énormes.
Il pleut abondamment. Les haricots sont détruits sur cette colline. D'autres pourrissent. On ne sait comment sera la récolte. Nous ne savons comment nous comporter.
La pluie a tout détruit. Les maïs, les haricots, l'arachide ne tiennent plus debout. Nous comptions sur cette récolte pour nourrir nos enfants. Maintenant, nous ne savons plus quoi faire. Sur le marché, il y aura carence de maïs. Le prix va grimper à cause de la rareté.
Pendant ce temps, les agriculteurs de Nirangongo vivent dans la crainte des nouvelles averses qui pourraient encore anéantir leurs espoirs de relance. Ils plaident pour une distribution des semences pour la prochaine saison culturelle.
Et puis, l'organisation internationale spécialisée sur la gestion des catastrophes dénommée Star Network organise depuis hier mercredi à Kinshasa une formation de 3 jours sur la bonne gestion des catastrophes en faveur de la presse congolaise. Les journalistes d'une vingtaine de médias du pays y participent. L'objectif étant, pour l'organisateur, mieux faire connaître cette notion de catastrophe aux professionnels de l'information afin que, à leur tour, aident les populations à minimiser l'impact des catastrophes au pays. Un récit de Dona Madimba Mbaya.
Les catastrophes, selon une cartographie de l'organisation Stat Network, sont une trentaine qui sévissent régulièrement en RDC. Les inondations, les tempêtes, vents violents et éboulements de terrain qui s'abattent plus à l'ouest, centre et sud du pays, mais aussi les guerres, insécurité, sécheresse, déforestation, éruptions volcaniques, séismes qui, en plus des 3 premières cités, sévissent, elles, beaucoup plus dans la partie est de la RDC. Limiter leurs impacts, c'est d'abord connaître ces informations, leurs causes, comment les prévenir à défaut de les éviter totalement, installer un suivi, une surveillance permanente et prévoir les financements pour toute cette mise en place. Il faut donc former les populations à tout cet état d'esprit et l'un des moyens sûrs d'y arriver efficacement est de sensibiliser suffisamment les journalistes à ces compétences afin qu'eux-mêmes, à leur tour, le fassent efficacement auprès des populations à travers leur capacité régulière de les influencer positivement. Tout cela est la conviction profonde de Stat Network qui organise la dite formation de 3 jours pour la presse de la RDC.
Dans le chapitre politique, l'appel à l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif en RDC, lancé mardi par Martin Fayulu Madidi, continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle du président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée, Dieudonné Nkichi, qui est aussi initiateur du Fonds Anti-Dialogue, était l'un des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mercredi présenté par Kelly Nkouté. Tout en saluant cette sortie médiatique du leader de la Mouka, surtout lorsqu'il appelle notamment à l'intégrité territoriale, lorsqu'il fait appel à la jeunesse de ce pays de se mobiliser pour défendre les territoires nationaux et aussi le fait qu'il dénonce les accords qui se signent partout. Dieudonné Nkichi estime cependant qu'il ne partage pas l'opinion selon laquelle il faut un dialogue national inclusif pour régler la crise dans l'est du pays. On l'écoute dans cet extrait proposé par Guy Maté.
Nous avons salué cette prise de position. Mais le bémol vient d'où? Le bémol vient lorsqu'il lance un appel à un dialogue inclusif national. C'est là où le bémol vient. Nous avons, nous, adressé une lettre à l'honorable Martin Fayulu pour lui poser 2 petites questions simples. La première, c'est de savoir quelle est la garantie que lui a qu'il suffit qu'on se réunisse pour que les problèmes finissent. Alors que nous l'avons déjà fait. Nous avons eu à faire plus de 37. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à 47 dialogues, toutes sortes confondues. Plus ou moins 47 détenus. Où est la solution? À chaque fois on se réunit, les gens qui prennent les armes, qui tuent les Congolais comme des animaux, et qui demain peuvent allègrement venir diriger les mêmes Congolais. La deuxième question que nous posons, c'est celle de savoir, est-ce que le président Fayulu Martin a la garantie que si nous tenons ces dialogues dans ce pays, ça sera le dernier?
La ville de Kinshasa accueille du 18 au 22 novembre les travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA. La cérémonie d'ouverture de ces assises s'est déroulée à l'hôtel Golden Tulip Kin Oasis en présence du président du comité exécutif de l'UPA, des présidents de deux chambres du Parlement de la RDC, des présidents des parlements africains, ainsi que des secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC. Ce forum vise à renforcer la coopération interparlementaire africaine. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette session porte essentiellement sur l'examen des demandes des statuts d'observateur, l'adoption du programme annuel de travail pour 2026 et des projets du budget pour l'exercice de l'année prochaine. Elle planche également sur l'examen et l'adoption du projet d'ordre du jour de la prochaine session du comité exécutif. Ces assises visent à consolider les acquis institutionnels de l'IPA et à renforcer la coopération interparlementaire africaine. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a formulé le vœu de voir ses travaux couronnés des résultats fructueux, porteurs de progrès pour l'Union parlementaire africaine. Pour Aimé Bogi, rester engagé à travailler avec chaque parlement pour promouvoir la paix, la stabilité, l'intégration régionale et le développement durable. Pour sa part, le président sortant du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Ali Kolutu, a souligné que ces travaux offrent aux participants l'opportunité de se pencher sur la procédure de mise en œuvre des recommandations adoptées lors des précédents travaux. Ce grand rendez-vous de Kinshasa regroupe les députés et sénateurs des 42 pays membres de l'UPA.
Dans la province du Congo central, la Fédération congolaise des droits de l'homme et des développements, FCDHD, s'oppose à la relance des deux postes de péage sur les tronçons Matadi-Boma. Ce projet actuellement en discussion entre le bureau de l'Assemblée provinciale et l'Agence congolaise des grands travaux ACGT vise à mobiliser des ressources pour financer l'entretien routier dans la province. Dans une déclaration à la presse ce mercredi, la FCDHD a dénoncé cette initiative, estimant qu'elle risque d'asphyxier davantage la population déjà accablée par la multiplicité de taxes. Gabriel Makiese, coordonnateur de la FCDHD, appelle l'Assemblée provinciale et l'ACGT a abandonné ce projet, affirmant que la RDC, tout comme le Congo central, dispose des ressources suffisantes issues des différents services pour financer l'entretien des routes. Écoutons Gabriel Makiese dans ses propos recueillis par Nana Plurichmambo.
Ayant été informé de la réouverture imminente des péages d'Insanda et Kifulu dans les tronçons Matadi-Boma, la Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement, FCDHD en sigle, fustige cette initiative et tient à relever à l'attention de l'Assemblée provinciale que cette initiative est de nature à asphyxier le petit peuple qui souffre déjà de la multiplicité des taxes dont la part du lion est au profit des gouvernants et non de ces pauvres peuples contribuables. La FCDHD rappelle à l'intention de l'Assemblée provinciale que cette initiative suicidaire avait, dans les années récentes, fait l'objet d'une révolution populaire ayant découlé à la perte des vie humaine. Cependant, la FCDHD relève que la RDC en général et la province du Congo central en particulier disposent de plusieurs ressources issues de différents services, entre autres le péage en exercice, les fonaires et autres, capables de financer ces travaux et appelle l'Assemblée provinciale et la CGT de renoncer à cette initiative qui risque de dégénérer une fois de plus à des révolutions citoyenne.
Parlons santé. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, une centaine de femmes ont été sensibilisées mardi à la lutte contre les cancers du col de l'utérus, organisée par la zone de santé de Beni. En collaboration avec la cellule de communication de l'UNICEF, cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie. À cette occasion, la consultante en communication de l'UNICEF a expliqué aux participantes les principaux facteurs des risques du cancer du col de l'utérus et les a encouragées à se faire dépister régulièrement. Docteur Anne Munirekana s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Parmi les facteurs de risque, nous pouvons citer l'exposition d'abord à un virus humain qui expose le plus souvent à faire le cancer du col de l'utérus. Il y a la multiparité, donc le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Il y a aussi les relations sexuelles précoces. Quand une fille de 10 ans, 11 ans commence déjà à coucher avec les hommes, ça peut aussi lui exposer dans le futur à faire un cancer du col de l'utérus. Et aussi le fait d'avoir beaucoup de partenaires sans se protéger. Il y a aussi les facteurs héréditaires. Et pour éviter ça, nous conseillons aux femmes d'aller se faire dépister. Une femme âgée de 20 à 65 ans doit aller au centre de santé au moins après chaque 3 ans. Une femme doit aller se faire dépister pour qu'on puisse voir si elle n'a pas encore développé des lésions précancéreuses. Si elle a déjà des lésions précancéreuses, on peut la prendre à charge à temps et là, elle a la chance de guérir.
Actualité internationale.
Si le point d'orgue de son voyage sera le sommet du G20 à Johannesburg le 22 et le 23 novembre, le président français entend plus largement profiter de ce déplacement pour renouveler la relation entre la France et l'Afrique dans la logique d'un partenariat plus équilibré. Attendu dès ce jeudi 20 novembre à Maurice, il se rendra ensuite en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola.
L'invité.
Une délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR s'est rendue ce lundi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette mission avait pour objectif de remettre des titres fonciers à des réfugiés congolais retournés d'Angola, ainsi que des maisons déjà construites pour certains ménages vivant sur les sites de Nkoko. Abdourahouf Ounon Kondé, directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui a conduit cette délégation, est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec André Katende Ngalamouloumé.
Monsieur Abdourahouf Ounon Kondé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé à Kananga ce jeudi 17 novembre 2025 à la tête d'une grande délégation. Qu'est-ce qui vous amène au chef-lieu du Kasaï central?
C'est ma première visite dans la région du Kasaï et je suis très heureux de pouvoir commencer cette visite par une très belle histoire. Parce qu'il m'a été raconté, il m'a été dit que cette région a été affectée par une situation de conflit dans les années 2016, 2017, 2018 qui a provoqué le déplacement massif de près de 1 300 000 populations. Mais aujourd'hui, près de 9 ans après cette tragique histoire, comme je le disais à l'entame de mon propos, je suis content d'être là parce que avec le travail du HCR, le travail des autorités, le travail du gouverneur qui était présent tantôt avec nous à cette cérémonie, sans compter le travail des autorités locales, on se rend compte qu'on peut construire une belle histoire à partir d'une tragédie. Et pour moi, malheureusement, au moment où on est en train de quitter cette région, au mois de décembre, c'est de savoir, en partant, en étant rassuré qu'on a pu laisser quelque chose de solide. Solide qui permet d'aller dans le sens de la paix, de la reconstruction, de la cohésion et de la coexistence pacifique. Et c'est ce que je retiens de cette cérémonie que nous venons de vivre avec son autorité, monsieur le gouverneur, où on a procédé à la remise de titres fonciers pour les quelques populations qui sont installées ici grâce à la générosité démontrée par l'autorité coutumière.
L'UNHCR veut quitter la région, comme vous l'avez dit en décembre, alors qu'il y a encore des gens qui ont besoin des services de l'UNHCR. Comment vous comptez vous y prendre?
En fait, en réalité, on va quitter la région, mais on ne part pas. On va travailler différemment, à travers des partenaires locaux qui ont été capacités, qui ont été formés et qui vont toujours rester avec les populations. Nous partons, nous restons, parce qu'il y a encore du travail à faire à côté des autorités. Donc, quand je dis nous partons, on n'a pas de bureau, on n'aura plus de bureau, mais on va avoir des partenariats et régulièrement nous serons ici pour faire le suivi de tous ces projets.
Alors dites-nous, sur ces sites, il n'y a que certains ménages qui ont réussi de maison. Qu'est-ce que vous promettez au reste de ménages qui ont su besoin de maisons comme les autres?
Alors les maisons qui ont été construites, c'est sur la base d'un financement qu'on a reçu. Et il était bon de venir voir comment ça marchait. Et on peut espérer que les bailleurs satisfaits de ce type de solution, de cette offre de solution, vont continuer à financer. Et comme on le disait, la capacité, l'expertise, elle reste. Donc on pourra donc penser à ceux qui n'en ont pas encore reçu.
En dehors de ces maisons, la population n'a pas d'école, de centre de santé. Comment vous pensez venir cette population en aide?
Alors, j'aurais dû peut-être préciser que cette localité, nous la considérons comme un pôle de convergence. Il n'y a pas que la maison. Il y a tout ce qui participe à renforcer l'accès aux moyens d'autonomisation. Et bien sûr, l'accès aux services sociaux de base. C'est dans un package. Et tout ça est en train de se poser progressivement. Mais nous pensons que la maison, elle permet de stabiliser, d'apporter l'espoir. Donc c'est le point de départ vers des solutions davantage plus grandes.
Nous disons merci.
Je vous remercie.
C'était notre invité Abdourahouf Nokonde qui s'entretenait avec André Katinde Ngalamouloumé. Et c'est ce qui met fin à notre journal de ce matin, coordonné par Vicky Odia, supervisé par Polly Mouzalia. La mise en onde a été assurée par Alain Goy et Billy Landry Betou. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.